pas du vent. Le magazine de l'environnement.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de C'est pas du vent, une deuxième partie consacrée à la RSE, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Un concept assez en vogue en ce moment, pourtant les entreprises qui l'appliquent sont peu nombreuses et celles qui le font cherchent surtout à améliorer leur image. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Comment construire un vrai modèle de RSE volontaire et efficace? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec notre invité, Antonio Manganella, chargé de plaidoyer RSE de l'Association française de développement CCFD Terre Solidaire. Antonio Manganella, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, quelle est votre définition de la RSE? Parce que c'est plusieurs choses à la fois et puis il y a des interprétations différentes. Donc, quelle est votre définition à vous?
La CCFD Terre Solidaire reprend à son compte la définition qui est donnée par les grandes institutions internationales, et notamment celle de la Commission européenne de 2011, qui estime désormais que la responsabilité sociale des entreprises s'est définie comme la prévention des impacts négatifs que les entreprises peuvent avoir sur la société. Ça constituait un véritable changement doctrinal, je dirais, parce que jusqu'à 2011, les entreprises estimaient que leur responsabilité était plutôt une démarche volontaire, donc plutôt du mécénat de la philanthropie, alors que là, on est vraiment sur l'identification et la prévention des impacts négatifs.
Donc, et les impacts, c'est les impacts écologiques, les impacts au niveau des salariés, c'est plusieurs choses.
Tout à fait. Là, encore une fois, la définition de la Commission européenne nous aide parce qu'elle donne plusieurs champs d'application. Donc, on est parti, bien évidemment, des questions de travail, des droits des travailleurs, mais aussi des questions environnementales, éthiques, de corruption et, dernièrement, on a intégré la question plus large du respect des droits de l'homme.
Alors, finalement, c'est la gestion du risque, c'est anticiper les problèmes.
Tout à fait. Ce qui n'est pas tout à fait compris encore et entendu par la majorité des entreprises qui demeurent très attachées à un concept flou, plutôt léger, des démarches volontaires justement, ou des mécénats et des philanthropies. Donc ça nécessite aussi pour les entreprises de réadapter leur modèle économique parfois, y compris en prenant des mesures qui leur permettent de prévenir les risques et aussi parfois de renoncer à certaines activités économiques quand les risques avérés sont trop importants.
C'est ça, c'est accepter de gagner un peu moins, mais pour avoir une image plus positive. Là, c'est tout un business qu'il faut revoir, quoi, qui est à voir différemment. Et ça, c'est peut-être un peu plus compliqué à prendre pour les entreprises, justement, à prendre en compte.
Bien sûr, la RSE ne peut pas faire abstraction du modèle économique dans lequel nous vivons, hein, la mondialisation économique, bien évidemment.
Le coût du profit.
Les coûts du profit, la compétition internationale très importante, les fantasmes qui émergent par rapport à des pays comme la Chine, de nouvelles puissances économiques comme la Chine, l'Inde, le Brésil, etc. Donc, bien évidemment, la RSE essaye de venir mettre quelques limites à cette mondialisation économique que les États ont laissé grandir sans forcément se préoccuper des impacts sociaux, environnementaux et en matière des droits de l'homme que la non-existence des frontières et des barrières finalement allait provoquer auprès des populations.
Alors, Antonio Manganella, vous étiez invité cette semaine par la désormais ex-sénatrice du groupe écologiste Hélène Lipietz à la projection du reportage du journaliste danois Frank Poulsen, un reportage intitulé « Du sang dans nos portables » qui avait été diffusé déjà sur des chaînes de télé françaises. Et quand ce journaliste parle avec une responsable de Nokia, eh bien ça donne ça.
Bonjour, Frank. Enchanté.
En tant que leader mondial du marché, nous nous devons de nous impliquer pour trouver une solution. Non seulement à notre propre niveau, mais de manière plus large, de façon à faire évoluer l'ensemble du secteur, c'est évident. Mais c'est compliqué. Si on avait la solution, elle aurait déjà été mise en place.
Plusieurs ONG préconisent tout simplement davantage de transparence. Vous pourriez publier la liste de vos fournisseurs sur votre site internet, par exemple. Pourquoi vous ne faites pas ça? C'est rapide. Ça pourrait être en ligne dès demain.
Oui. Nous faisons notre possible pour améliorer la transparence. Et
c'est on ne peut plus simple. Il suffit d'exiger de vos fournisseurs qu'ils indiquent leurs propres fournisseurs. Et ainsi de suite, d'un bout à l'autre de la chaîne. Ça aiderait considérablement à repérer les minerais du conflit.
Mais ça pose un problème de confidentialité, aussi bien pour Nokia que pour nos fournisseurs eux-mêmes.
Pour des raisons de concurrence ?
De concurrence ou d'espionnage industriel, ce genre de choses. Il y a de nombreux facteurs à prendre en compte.
D'accord. Donc, ce que vous me dites, c'est que d'un côté, on a la concurrence, c'est-à-dire la course au profit. Je me trompe ? La concurrence, c'est gagner plus que les autres, non ? Et de l'autre côté, on a des enfants qui meurent en Afrique, des femmes violées et des millions de morts. En clair, ce sont bien les termes du dilemme.
Oui.
Plusieurs ONG recommandent de publier la liste de vos fournisseurs.
Oui.
Et vous êtes en train de me dire que vous ne le faites pas parce que vous voulez gagner plus d'argent.
Non, je n'ai pas dit ça.
Je simplifie, mais c'est quand même un peu ça, non ?
Je ne crois pas qu'on puisse comparer. Ce n'est pas comparable. Bien sûr, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre un terme à ce problème ou pour user de notre influence afin de s'y attaquer sérieusement. Nous réfléchissons aux moyens d'une plus grande transparence. Et ça viendra peut-être à l'avenir. Mais pour le moment, ce sont des données sensibles pour nous et pour nos fournisseurs.
C'est pas du vent sur RFI.
Extrait du documentaire du sang dans nos portables du journaliste Frank Poulsen. Une réaction, Antonio Manganella. Alors je précise qu'on parle au fait de ce minerai du coltan qui est nécessaire à la fabrication des téléphones portables coltan que l'on trouve notamment au Kivu, au Congo. Mais une réaction à ce qu'on vient d'entendre.
Bah, on est,
le débat est clair là.
On est effectivement face aux contradictions dont on parlait tout à l'heure. Finalement, des entreprises qui sont très très présentes dans les marchés internationaux et qui se battent dans une compétition très ardu, finalement, ils perdent un peu l'intérêt général. C'est-à-dire qu'on est là sur une confrontation que les journalistes posent très bien entre compétition, compétitivité pour une entreprise et respect des droits de l'homme, enfants qui travaillent dans une mine,
transparence,
etc.
Voilà.
Et transparence. Donc, voilà, les mesures que finalement aujourd'hui on applique pour essayer de réguler ce type de situation, elles sont largement insuffisantes, insatisfaisantes. Rappelons aussi que les Kivu, donc cette zone du RDC est extrêmement riche et pourtant on se trouve dans un pays qui est parmi les plus pauvres du monde. Ça veut dire qu'il y a quelque chose là qui fonctionne pas en termes de redistribution. L'exploitation dans le nord du Kivu produit environ 180 milliards d'euros par an et finalement cet argent il part soit dans des paradis fiscaux soit auprès de grandes entreprises et finalement il n'y a aucune forme de responsabilité qui peut être engagée vis-à-vis des grands distributeurs comme Nokia, vis-à-vis des sa chaîne très longue de sous-traitance parce que les coltans, une fois extraits, ils passent par les mains de plusieurs petites entreprises et donc arrivent finalement à destination finale très tard.
Mais alors, deux questions déjà, comme la RSE, donc cette responsabilité sociétale et environnementale des entreprises est basée sur le volontariat, est-ce que c'est pas voué à l'échec finalement ? Et deuxième question, une entreprise qui souhaiterait vraiment être sûre de ses fournisseurs, peut-elle contrôler réellement ? Puisqu'il y a certains pays, c'est compliqué.
Elle pourrait contrôler. Vous savez, moi c'est mon opinion. L'entreprise en tant que telle est une série de process. Et d'ailleurs, parfois, la plupart des process industriels, ils fonctionnent très très bien. Ils sont parfois très complexes. Donc, il n'y a pas des limites, je dirais, au possible, au champ du possible pour une entreprise. Il est vrai que le contexte du Congo est un contexte très particulier. Mais attention à que justement les questions économiques, les relations économiques d'un pays avec des entreprises étrangères ne crée pas un cercle vicieux, plutôt parce qu'aujourd'hui nous savons que l'exploitation du coltan sert à financer les milices armées rebelles au nord du Kivu et donc on est vraiment dans un cercle vicieux dans lequel des ressources naturelles qui pourraient servir au développement d'un pays sont exploitées à l'inverse pour réduire les possibilités de ces pays de s'en sortir.
Alors il y a un vide juridique qui fait que les multinationales ne sont pas responsables de leurs filiales, ça c'est quand même un problème majeur.
Tout à fait. C'est les cœurs du problème dans lesquels, avec lesquels nous travaillons d'ailleurs avec des députés aujourd'hui. L'idée, c'est de pouvoir rendre juridiquement responsables les maisons mères basées en France et plus largement en Europe et dans les pays du Nord vis-à-vis de leur chaîne de sous-traitance, vis-à-vis aussi de leur filiale. Aujourd'hui, une filiale, même si elle est détenue au 100% par une entreprise française, à aucun moment un juge peut mettre en question la responsabilité de la maison mère pour violation aux droits de l'homme ou à l'environnement de l'une de ses filiales à l'étranger.
Antonio Manganella, restez avec nous évidemment. Nous sommes en ligne avec le député PS du Morbihan, Philippe Noguès. Philippe Noguès, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes auteur de l'essai Responsabilité sociale des entreprises, concilier démocratie sociale, écologie et compétitivité, publié par la Fondation Jean Jaurès en septembre 2013. Et vous êtes aussi l'auteur d'une proposition de loi sur le devoir de vigilance des multinationales, on en parlait. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Quelles sont les grandes lignes de cette proposition de loi?
Ah, écoutez, je crois qu'Antonio Manganella l'a bien expliqué déjà. Hein. L'objectif de cette proposition de loi, c'est bien d'instaurer une obligation de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre à l'égard de leurs filiales, sous-traitants et fournisseurs. Il s'agit en fait de faire en sorte que les sociétés transnationales ne puissent pas faire n'importe quoi et d'éviter justement la survenance de drames, aussi bien d'ailleurs en France qu'à l'étranger. Et d'obtenir aussi, une chose importante, c'est d'obtenir des réparations pour les victimes. En cas de dommage, en particulier portant atteinte aux droits humains ou à l'environnement.
Mais est-ce que vous pensez qu'une loi française peut changer les choses quand on sait que souvent les multinationales s'affranchissent des frontières et des lois, justement?
C'est vrai, vous avez raison, mais je crois que les choses évoluent beaucoup quand même dans le monde actuellement. Enfin, si on regarde les choses en France, puisque moi j'ai un petit peu commencé par la partie franco-française, si on prend... une catastrophe qui s'est déroulée en France quand même, qui est une catastrophe environnementale, qui est celle de l'Erika, et moi je suis breton, c'est pour ça que je l'ai bien en tête. On a bien vu quand même que la jurisprudence a fini par payer, alors il a fallu attendre, hein, il a fallu 10 ans, mais je veux dire, ça a permis quand même que le jugement final soit favorable et condamne Total pour n'avoir pas fait preuve justement de devoir de vigilance. Donc on voit bien que petit à petit, la jurisprudence se tourne dans le bon sens, on va dire, mais qu'aujourd'hui, il manque... clairement un instrument qui nous permettrait d'aller plus loin.
Et cet instrument, c'est la loi, justement?
C'est le projet de loi qu'on essaye de déposer, qu'on a déposé, et qu'on espère bien discuter dans l'hémicycle dans les semaines à venir.
Mais est-ce que vous êtes suivi par vos collègues de l'Assemblée nationale? Et là, je pense quelle que soit la famille politique, je vais y arriver, pardon.
Alors, d'abord, premièrement, il faut dire une chose, c'est que ce projet de loi a été déposé au départ par le groupe socialiste et le groupe écologiste.
Et avec Daniel Auroi.
Voilà, par l'intermédiaire de Daniel Auroi. Et depuis, nous avons amené à nous, on va dire, les deux autres groupes de gauche. Donc ça veut dire que les quatre groupes de gauche de l'Assemblée ont déposé ce projet de loi. Je pense très honnêtement que nous pourrons avoir des appuis également à droite, en tous les cas au centre, je pense. Et puis, il faut bien dire une chose aussi, c'est que nous avons le soutien des 5 plus gros syndicats français aujourd'hui. Donc, quand on parle avec nos collègues à l'Assemblée, je peux vous dire que là, tout le monde se bat pour être présent sur la proposition de loi. Il y a un vrai soutien des députés.
Antonio Manganella, une proposition de loi comme celle qu'a proposée Philippe Noguès, c'est quelque chose qui va dans le sens de ce que vous souhaitez, vous, à Terre Solidaire?
Absolument oui, d'autant plus que on a été parmi ceux qui ont proposé.
Mais vous pensez vraiment que ça peut faire changer les choses?
Je le pense. Je pense que c'est bien évidemment la complexité de la situation nécessite plusieurs mesures. Celle-ci est une mesure qui change quand même la donne parce qu'elle introduit quelque chose que révolutionnaire. Finalement, ça crée un nouveau devoir pour les entreprises et finalement ça reconnaît qu'il existe un lien juridique entre les différentes entités qui composent un groupe, ce qui est la distorsion majeure aujourd'hui, ce qui provoque, il ne faut pas l'oublier, un fort dumping social et environnemental aussi pour nos travailleurs ici. Donc on est aussi dans la recherche des solutions également en Europe pour lutter contre la casse sociale et l'érosion du droit social en France aussi.
Philippe Noguès, qu'en pense le patronat de cette proposition de loi? Et là, je pense notamment à l'AFEP, hein, l'Association française des entreprises privées, et au MEDEF. Et
on peut dire qu'ils sont un petit peu vent debout contre cette proposition de loi.
Sans blague.
Non, ça vous étonne. mais c'est pour ça, je pensais en écoutant tout à l'heure. Je crois qu'il faut vraiment pas lâcher les argumentaires de défense des droits de l'homme, bien évidemment, mais il faut à tout prix qu'on arrive à investir le terrain du discours économique. Antonio en parlait il y a quelques minutes, mais je crois qu'il faut bien Il faut bien rappeler à chaque fois que c'est un devoir de vigilance qu'on demande aux entreprises. Ce n'est pas une obligation de résultat. Ça veut dire que s'ils arrivent à prouver qu'ils ont pris les mesures nécessaires pour éviter les catastrophes, ils ne sont pas condamnables. Donc on voit bien que c'est quand même pas non plus... on ne va pas faire tomber le ciel sur la tête des entreprises françaises, comme je dis souvent, parce que c'est quelque chose qui n'est pas aussi extraordinaire que ce qu'ils essayent de nous faire croire. Je veux dire, donc, je dirais même que cette PPL, c'est presque l'opportunité pour les entreprises françaises de se positionner, que je vous disais tout à l'heure qu'il y a quand même un mouvement qui monte dans le monde, et d'organiser justement ce devoir de vigilance qui s'imposera, moi je le crois vraiment inexorablement, je dirais d'ailleurs heureusement, dans les années à venir. Voilà, il y a déjà des législations comparables qui existent un petit peu dans certains pays occidentaux proches, hein, et le phénomène se développe aussi sur la planète. On peut rappeler que l'Inde vient d'imposer à ses entreprises de consacrer 2% de leurs résultats imposables aux activités de RSE. Vous voyez, c'est quand même...
Oui, ça montre une évolution. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'on en parle uniquement de la RSE quand il y a des catastrophes malheureuses? Je pense là au cas de l'usine Rana Plaza au Bangladesh qui a fait 1500 morts dans des ouvriers du textile. Et malheureusement, il est déjà trop tard à ce moment-là.
Et moi, je me bagarre pour qu'on en parle toute l'année, tout le temps, aussi bien en France qu'à l'étranger. Il a été installé en France l'année dernière une plateforme sous l'égide du Premier ministre, à laquelle Antonio Manganella participe d'ailleurs, et à laquelle dont je suis également membre, et qui regroupe justement toutes les associations patronales, toutes les organisations patronales, tous les syndicats, les ONG, des experts académiques, on va dire. Et donc tout ce monde-là travaille pour essayer de développer la RSE en France comme à l'étranger. Je pense qu'on a encore du travail devant nous, hein, beaucoup de pédagogie à faire, mais la RSE devient un outil pour sortir de la crise, et ça aussi je le dis souvent, mais sortir de la crise par le haut.
C'est une bonne chose. Merci infiniment Philippe Noguet. Je rappelle que vous êtes député PS du Morbihan et auteur d'une proposition de loi sur le devoir de vigilance des multinationales.
The morning light was not as bright as it was yesterday. We were wounded souls with bleeding hearts, too proud to admit that we needed to feed on each other's love. Just like we said we would. I need you like a thirst needs a drop of water. And I wanna hear your voice whispering in my ear. That we will make it no matter what's the maybe. I love each other until we cease to exist.
C'est pas du vent sur RFI. Aujourd'hui, nous parlons de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises avec notre invité Antonio Manganella, chargé de plaidoyer RSE au CCFD Terre Solidaire. Alors vous savez sans doute au Gabon, la COMUF, la compagnie des mines d'uranium de Franceville, filiale d'Areva, a exploité le gisement d'uranium de Mounana pendant plus de 40 ans. En 1999, faute de rentabilité, le site est finalement fermé. Aujourd'hui, selon la COMUF, les travaux de réaménagement du site sont terminés et conformes aux réglementations internationales. Mais les anciens travailleurs qui vivent encore sur le site ne partagent pas cet avis.
Là, je vais vous amener vers la passerelle là-bas, où rien n'est fait, où tout est encore brut. La boue de l'usine est visible à l'œil nu. Et je pense que le compteur Ringer que vous avez amené là, ça va bien parler là-bas. Ici, on est toujours dans la zone d'Ombana. Là, on traverse, c'est la passerelle qu'ils ont faite pour traverser les marécages de Mitembe. Et ces marécages-là ont été provoqués par la boue de l'usine. Là, vous voyez que vous êtes au bord de la rivière là. Vous n'êtes pas dans l'eau. Vous êtes au bord de la rivière là et il y a la boue. Et vous voyez ce que le compteur donne.
Donc, effectivement, j'ai mis le compteur Gégère par terre.
Oui.
Et là, ça fait donc même pas 2 minutes. On est déjà à 5,09.
5,09, c'est énorme.
Ce qui fait plus de 50 fois la norme.
Oui. Les animaux, ils circulent. Les gens, ils circulent. Une antilope qui vit ici, si je la tue, elle a la radioactivité. Je vais la manger. J'aurai toujours la radioactivité à moi. Même si les politiques de Mounana ne voient pas ça, nous autres, la population, on voit qu'il a encore à faire. Voilà.
Donc voilà, là, c'est la mesure en l'air. Et la mesure en l'air est à 3,10. 3 fois 10, M. Benoît, ce qui nous donne
3,10, ça fait 30 fois au-dessus de la moyenne. Ça, c'est la radioactivité dans l'air. C'est-à-dire que si vous passez par là plus d'une fois dans la journée, c'est fini. On est dans un endroit radioactif. L'eau, il y a la radioactivité. Sur ce pont, il y a la radioactivité. En tout cas, partout, même là où on est en train de respirer, on respire la radioactivité.
Elle est dans l'air, elle est là. Elle est là, dans l'air, vous l'avez captée. Alors, on fait quoi? On va continuer à mourir ici? Ou bien Comif va faire quelque chose pour anéantir cette radioactivité? Avant l'exploitation, cette zone-là n'avait pas de radioactivité. C'est Comif qui a amené la radioactivité ici. Donc ils ont à réhabiliter cette zone-là. Ici, ils ont versé la boue partout, parce qu'ils croient que la forêt-là, les gens ne fréquentent pas. Or que les gens font la chasse ici, les gens font la pêche ici, les gens font les plantations ici. Le poisson, on le pêche ici, on le mange aussi.
Ouais, ça par contre, il faut arrêter de le pêcher et arrêter de tremper le manioc.
Comif donne quoi en échange? Si moi j'arrête de pêcher le poisson ici, Comif me donne quoi? 1 kilo de poisson coûte 2 500 dans la boutique. Je vais arrêter de pêcher. Comif va me donner quoi en échange? Je vais manger quoi?
Une réaction, Antonio Manganella, ce que l'on vient d'entendre.
Comme vous demandiez de l'intérêt d'une telle proposition de loi, je pense que c'est tout à fait illustré par ce type de cas. C'est-à-dire que là, la filiale dont on parle est une filiale
la
du
COMUF,
droit,
donc.
Voilà, du droit gabonais. Et nous assistons à un vrai problème d'accès à la justice des victimes ou à la réparation, en tout cas, ce qui n'est pas possible dans leur pays, parce que pour des questions que vous pouvez imaginer, corruption, faiblesse de l'état des droits, un état lui-même pas soucieux des droits de ses propres populations, il serait très intéressant et très important pour ces victimes de pouvoir s'adresser aux tribunaux de la maison mère en France et donc d'avoir accès à la justice ici et des réparations conséquentes qui pourraient peut-être changer véritablement le comportement de ces entreprises-là.
On est devant un problème crucial, c'est que les multinationales doivent montrer l'exemple et finalement elles ne le font pas. Et puis quand elles pratiquent la RSE, c'est pour s'acheter une virginité finalement, pas pour les bonnes raisons. Ça c'est quand même dramatique aussi.
Pas toutes, je pense.
Heureusement,
je le pense. Il est vrai qu'encore une fois, c'est une question de modèle économique, malheureusement. Les entreprises qu'aujourd'hui sont en capacité de renoncer à un projet parce qu'il serait très coûteux d'un point de vue humain et environnemental sont très peu nombreuses, malheureusement. On est habitué à entendre cette histoire selon laquelle la sphère économique, sociale et environnementale aurait les mêmes poids. Et finalement, c'est pas vrai. Dans la prise de décision d'une entreprise, la motivation question économique reste quand même primaire.
On parlait des multinationales, un petit mot sur les PME, doivent-elles être impliquées? Quand on est une petite société, c'est plus difficile à accepter ça, non?
Encore une fois, je me rattache un peu aux définitions de communément acceptées. On définit la responsabilité par rapport à l'ampleur de l'impact. Donc en partant de là, on peut estimer qu'une PME a un impact mineur en tout cas, y compris pour les types d'activités qu'elle peut avoir. Donc bien évidemment, il faut promouvoir la responsabilité des entreprises, y compris auprès des PME, mais attention à pas trop charger la réglementation pour les PME, alors que nous avons face à nous des multinationales qui, elles peuvent jongler entre différentes juridictions et donc être complètement exemptées de toute forme de responsabilité juridique et légale.
Et si finalement c'était à nous, citoyens, de faire bouger les choses?
Ça l'est à nous, citoyens, justement.
Alors, il faudrait qu'on ait accès à la formation parce que les informations nous sont parfois cachées.
Alors, les informations, pas seulement elles sont cachées, quand elles existent, elles sont très difficilement exploitables. C'est-à-dire que c'est le travail que nous faisons un petit peu du côté des ONG, d'essayer de transformer les informations brutes en informations qui peuvent être digérées par les grands publics, mais c'est très difficile, on peut pas les faire tout seul. Il y a une obligation de transparence aujourd'hui en France. Les entreprises, elles sont obligées de communiquer sur les informations sociales et environnementales tous les ans, au mois de mai en général. C'est dans le cadre de leur rapport développement durable, mais peu de personnes les lisent et effectivement ces rapports, ils restent très indécents par rapport aux attentes de la société civile aujourd'hui.
Merci infiniment Antonio Manganella, je rappelle que vous êtes chargé de plaidoyer RSE au CCFD Terre Solidaire. Merci à vous chers auditeurs de nous avoir suivis. Demain nous parlerons du sable. Après l'eau, le sable est la ressource naturelle la plus utilisée au monde. On en consomme plus de 15 milliards de tonnes par an, alors pour la fabrication du verre de nos ordinateurs ou pour faire du béton tout simplement, mais la ressource se raréfie et son extraction pose de graves problèmes environnementaux. Alors, comment éviter une catastrophe écologique annoncée? Eh bien, c'est ce que nous verrons demain. Très bonne journée à tous. Tout de suite, un nouveau journal sur RFI.